France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Le projet a tout simplement été qualifié par les économistes de grand bazooka et pour cause l'Allemagne veut investir des centaines de milliards d'euros dans sa défense. Un électrochoc d'une ampleur inédite provoqué par la rupture transatlantique amorcée par un certain Donald Trump. S'agissant de la guerre commerciale, cette fois-ci toujours initiée par les États-Unis, on s'attardera sur la riposte du Canada, bien décidé à renforcer sa sécurité. Avec notre invité, on parlera plan de relance automobile européen. On verra également comment maigrir avec un coupe-faim à base de plantes peut s'avérer mortel. Et puis l'actualité en France, et notamment cette question, Nicolas Sarkozy sera-t-il bientôt déchu de sa Légion d'honneur ? Avec un orateur aussi tempétueux et acrimonieux que Donald Trump, lequel aura testé en quelques semaines toutes les limites de son pouvoir, le premier grand discours hier soir du nouveau locataire de la Maison Blanche devant le Congrès s'annonçait explosif. Pendant plus d'une heure quarante, le tribun s'est pour l'essentiel célébré lui-même, faisant écho à tous ses thèmes de campagne, lutte contre l'immigration clandestine, purge dans l'administration, guerre culturelle et identitaire, offensive commerciale, tout cela au nom d'une révolution du bon sens, censé ouvrir le nouvel âge d'or de l'Amérique et mieux encore, sans doute, clore les débats. Sauf que face au scénario du pire, et parce qu'en six semaines à peine le tournant majeur impulsé par le nouveau locataire de la Maison-Blanche a fini d'achever les certitudes établies, la politique américaine impose désormais la recherche de nouvelles stratégies. Premier exemple, face à la menace de Donald Trump de rompre avec la doctrine atlantiste, des approches inédites se dessinent, et notamment sur le vieux continent. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Hier déjà, deux jours avant un sommet extraordinaire, la Commission européenne a dévoilé de premières solutions ambitieuses pour financer son réarmement. Et puis, fait sans précédent, l'Allemagne a donc dit son intention de débloquer des investissements pour renforcer son armée en s'affranchissant de ses sacro-saintes règles constitutionnelles de discipline budgétaire.
Oui, c'est le futur chancelier allemand, récent vainqueur des élections, le conservateur Friedrich Merz, qui l'a annoncé hier soir. Il s'est mis d'accord avec ses partenaires de coalition, les sociaux-démocrates, pour augmenter très substantiellement le budget militaire, au moins 100 milliards d'euros par an. C'est le double de ce qui est prévu actuellement en Allemagne. À titre de comparaison, la France dépensera cette année 60 milliards d'euros pour sa défense. Face à la menace russe, face au potentiel désengagement américain, l'Allemagne rompt avec son aversion à l'endettement. Pour Friedrich Merz, la situation impose de prendre des mesures exceptionnelles, comme au moment de la crise financière de 2008 et la politique du « quoi qu'il en coûte » lancée à l'époque par la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, le futur chancelier allemand assume la comparaison.
Je veux le dire très clairement. À la lumière des menaces contre la liberté et la paix sur notre continent, il nous faut appliquer la même chose à notre défense, le quoi qu'il en coûte.
Whatever it takes, formule de Mario Draghi, le leader de la BCE à l'époque. Sur ces questions de défense, il faut mesurer en fait, Thomas, la triple révolution intellectuelle à laquelle est contrainte l'Allemagne. D'abord, le militarisme, culturellement tabou pour des raisons historiques évidentes, ne est plus ou plus autant. Le nucléaire, civil comme militaire, massivement rejeté jusque-là, s'invite dans le débat. Friedrich Merz a même suggéré que le parapluie nucléaire français soit étendu à l'Allemagne. Et enfin, sur la dette, effectivement, le frein constitutionnel qui empêche quasiment l'Allemagne de s'endetter va être supprimé. Il faudra pour cela un vote favorable des deux tiers des députés, vote qui devrait avoir lieu avant la fin du mois.
Merci Frédéric Seyss. Alors si la volonté de Donald Trump d'imposer une politique étrangère musclée oblige aujourd'hui les Européens à augmenter leur budget militaire, cette nouvelle stratégie qui rappelle la doctrine du Big Stick, popularisée par Theodore Roosevelt, reposant sur une diplomatie soutenue par une force à la fois militaire et économique considérable, oblige là encore certains de ses alliés à lancer à présent la contre-attaque. C'est le cas en particulier avec le Canada qui, face aux nouvelles barrières douanières américaines, a décidé de mettre en place des mesures de représailles, au point, Omar Waman, de forcer Washington à trouver désormais un compromis. Hier soir, le ministre américain du Commerce a même laissé entendre qu'un deal pourrait être trouvé dès aujourd'hui.
Oui, car le Canada a décidé de ne pas se laisser faire et de riposter. Tout d'abord en déposant une plainte devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, contre ses droits de douane de 25%. Autre mesure de représailles prise par les autorités canadiennes, l'instauration de taxes douanières également de 25% sur plus de 1000 produits américains comme le bourbon du Kentucky, les oranges de Floride ou encore les produits laitiers, ce qui pourrait entraîner des licenciements aux États-Unis au moment où les entreprises américaines se remettent à peine de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Cette réplique canadienne devrait s'élargir au mois de mars, a expliqué le Premier ministre Justin Trudeau, bien décidé a poussé Washington à trouver un terrain d'entente entre les deux voisins dont les économies sont interconnectées. Ottawa, qui se prépare à des conséquences désastreuses sur son économie. Selon la Chambre de commerce du Canada, ses droits de douane pourraient plonger le pays dans une récession.
Alors, tout le monde n'a pas forcément les mêmes armes pour se lancer dans un bras de fer avec le nouvel empereur américain. L'Ukraine, en l'occurrence, a-t-elle d'autres choix que de céder au chantage de Donald Trump? Sans les États-Unis, aucune garantie de sécurité que l'Occident puisse apporter à Kiev ne pourra fonctionner à court terme. Raison pour laquelle, après le fiasco de leur rencontre vendredi dernier dans le bureau ovale, Volodymyr Zelensky a souhaité hier arranger les choses avec Donald Trump. Dans un long message, le président ukrainien a réitéré sa reconnaissance pour le soutien de Washington et s'est dit prêt à signer un accord cadre sur l'exploitation des ressources naturelles de son pays pour pouvoir entamer des discussions avec la Russie sur une paix durable sous le leadership des États-Unis.
Et en attendant, sur le terrain, la guerre continue de semer la désolation.
Et pas seulement parmi les soldats et les civils, les menaces persistantes sur la liberté des médias constituent les principaux risques auxquels ont été exposés les journalistes en Europe l'an dernier. C'est d'ailleurs toujours le cas, comme vient le démontrer le rapport annuel publié ce matin par la plateforme du Conseil de l'Europe dédié à la protection et la sécurité des journalistes sur le vieux continent. Les précisions d'Ania Vogel.
Attaques physiques, intimidations, mises en détention, impunité pour les auteurs. 266 signalements ont été recensés l'an dernier, un nombre en légère baisse par rapport à 2023, mais dans lequel la part d'atteinte à l'intégrité physique a fortement augmenté. Deux journalistes ont été tués en Ukraine, une journaliste ukrainienne est morte en détention en Russie. Les deux pays enregistrent le plus grand nombre de signalements, suivent la Turquie, la Serbie et la Géorgie, où les attaques contre les journalistes ont triplé lors des manifestations pro-Union européenne. Sur les 159 journalistes détenus, la Biélorussie en compte 44, 30 en Azerbaïdjan, 29 en Russie, plus 28 dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie et 27 en Turquie. Le rapport s'inquiète aussi des poursuites abusives et demande aux États membres de mettre en œuvre les nouvelles législations européennes avec des mécanismes de réaction rapide et des unités spécialisées dans la police et la justice. Face à la menace croissante de désinformation et de propagande d'État, il les appelle à garantir des médias de service public solides, indépendants, avec un financement stable, à l'abri de l'influence et de l'ingérence politique.
53 milliards de dollars sur 5 ans.
Les dirigeants arabes ont adopté hier un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza, axé sur les secours d'urgence et le développement économique, mais aussi le retour de l'autorité palestinienne, un plan présenté comme une alternative au projet de Donald Trump, encore lui, de placer le territoire sous contrôle américain. Le texte a été aussitôt salué par le Hamas, mais déjà rejeté par Israël, qui ce matin encore, par la voix de son nouveau chef d'état-major, l'a répété, la mission contre le Hamas n'est pas terminée.
Midi et 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Un plan d'urgence pour sauver l'automobile, parce que depuis quelques mois, le secteur fait l'objet d'une crise profonde partout en Europe, fabricants et sous-traitants multipliant les plans de réduction d'effectifs. La Commission européenne a décidé de lancer un plan d'action détaillé en ce moment même par sa présidente Ursula von der Leyen, mais dont les principaux contours ont été dévoilés lundi dernier. Parmi les mesures proposées, on retiendra notamment un mécanisme de flexibilité consistant à prendre en compte les émissions de CO2 sur 3 ans au lieu d'une seule année, ce qui donnera un délai aux retardataires pour se rattraper et permettre de ne pas assommer les entreprises déjà en difficulté. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Bernard Julien, maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ce plan de relance européen est donc censé répondre à un secteur en crise où les suppressions d'emplois sont massives, le tout dans un contexte de concurrence internationale accrue. Ce matin, le vice-président de la Commission, Stéphane Séjourné, parle même d'une industrie en danger de mort. Est-ce que, déjà pour commencer, vous êtes d'accord avec ce constat un peu alarmant? Est-ce que la filière traverse véritablement une crise sans précédent, ou bien est-ce que le secteur ne dramatise pas aussi un peu les enjeux?
Oui, il y a une très forte dramatisation hein, qui était liée à la volonté d'obtention de ces fameuses flexibilités dont vous parliez tout à l'heure. Pour l'instant, hein, on n'a pas de constructeur automobile en Europe qui soit dans le rouge, on n'a pas de grands équipementiers qui soient dans le rouge. Hein, ça veut dire que on parle d'une crise alors même que les entreprises font des profits, profits certes un peu moins élevés que ceux qu'ils ont fait en 2022 ou 2023, mais profits quand même. Hein. Donc ça veut dire que il y a évidemment hein, des difficultés, mais on n'est pas dans une situation dramatique et il y a bien évidemment une forme de dramatisation qui permet d'obtenir que les contraintes s'allègent et d'obtenir éventuellement que les aides se renforcent.
Hein. Et peut-être aussi de ne pas trop baisser ses prix.
Voilà, hein, alors effectivement, hein, ces flexibilités, elles permettent aux constructeurs d'étaler la charge de cet ajustement aux contraintes CO2 sur 3 années, ce qui évite évidemment de faire peser tout l'ajustement sur l'année 2025. Hein, si ça avait été le cas, il aurait fallu que les entreprises automobiles bradent leurs voitures électriques pour les rendre accessibles et pour être dans les clous. Là, évidemment, le fait d'étaler tout cela sur 3 ans, ça permet de continuer de faire pas mal d'argent, y compris avec des voitures thermiques, sur l'année en cours et peut-être sur l'année 2026 aussi. Hein, et par conséquent, c'est d'abord de ce côté-là qu'il faut se tourner. Alors évidemment, il y a des ajustements à l'électrification qui sont lourds, qui sont coûteux, et il ne faut pas le négliger, hein, mais la tonalité donné au débat a d'abord été lié à la volonté d'obtenir cet assouplissement de la contrainte avant toute autre chose, me semble-t-il.
Cet assouplissement, c'est évidemment un revirement majeur de la part de Bruxelles, en particulier après les avancées en matière écologique qui avaient été gagnées, notamment après l'affaire du Dieselgate.
Oui, je crois que c'est ça qui est peut-être le plus marquant. Hein. C'est-à-dire que on a eu de longues années jusqu'au Dieselgate, hein, c'est-à-dire jusqu'en 2015, durant lesquelles on avait des politiques automobiles qui étaient assez largement dessinées par les constructeurs eux-mêmes, avec la complicité de la puissance publique. Ça a cessé d'être le cas entre 2015 et 2025, hein, puisque là, comme ils avaient beaucoup menti, comme ils avaient beaucoup exagéré les difficultés qu'ils pouvaient avoir à faire plus propre, on s'était permis, hein, le politique s'était permis de leur forcer un peu la main et de les obliger à faire ce qu'ils prétendaient impossible. Et on s'est aperçu à cette occasion-là que ce qu'ils prétendaient impossible était possible quand même. Là, les constructeurs qui n'ont cessé depuis 3-4 ans de se plaindre de ce qu'on ne les écoutait pas suffisamment, ils sont pleinement entendus. Hein, et on a une espèce de renversement hein, par rapport au rééquilibrage qui s'était opéré depuis 10 ans. Hein, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus marquant à retenir dans l'épisode qu'on était en train de vivre en 2025.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'un des enjeux majeurs se situe dans les investissements pour la transition vers les véhicules électriques. Est-ce qu'au regard des solutions envisagées, ce plan est au niveau selon vous ?
Alors, je pense qu'il en manque beaucoup, hein, et que ce que les chiffres que Mario Draghi avait pu donner, qui ressemblent d'ailleurs assez près à ce que en France le rapport Pisani-Mahfouz avait dit, hein, et sont bien au-delà de ce qui avait été dit, de ce qui a été annoncé là ce aujourd'hui. Hein, et puis il y avait dans la manière dont Mario Draghi avait envisagé les choses une volonté d'être très européen et d'arrêter de laisser chaque État finalement continuer de faire concurrence aux autres. Hein, donc c'est cette idée que il faut se dépêcher de construire des champions européens au lieu d'essayer de continuer de se faire concurrence entre Européens. Hein, cette idée-là, je ne la vois guère poindre hein, dans la manière d'envisager les choses. C'est un peu comme si on avait été tellement occupé à obtenir ces flexibilités qu'on avait un peu oublié les objectifs de long terme. Hein, et évidemment, là, si on veut que l'industrie de la batterie européenne soit au niveau de l'industrie chinoise ou même de l'industrie américaine dans les temps à venir, il faudrait mettre en place des politiques plus audacieuses. Et puis peut-être que, par rapport à ce que je lis, hein, il faudrait cesser de disperser ses forces. Hein. Là, il y a la volonté de soutenir le véhicule autonome en même temps que le véhicule électrique. Il me semble que ça va être très difficile, étant donné l'ampleur des efforts à réaliser, de courir plusieurs lièvres à la fois. Et je crains que ce ne soit le cas cette fois-là.
Favoriser un modèle de coopération en somme plutôt que de concurrence. Merci Bernard Julien, maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Morfois pour la préparation.
Les entreprises ont versé un montant de dividendes record en 2024.
C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce matin qui recense les 1200 plus grosses capitalisations boursières. 1750 milliards de dollars ont ainsi été reversés aux actionnaires grâce aux banques, mais aussi aux géants de la tech. Meta, la maison mère de Facebook et Alphabet, celle de Google, représente à elle seule 1/5 de la croissance mondiale de ces dividendes, dont le montant total bat des records année après année. Déjà, les experts s'attendent à ce que 2025 représente un nouveau pic historique. Personne n'a oublié le scandale du Mediator, ce médicament commercialisé pour le traitement du diabète, mais largement prescrit comme coupe-faim. Et bien ce matin, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alerte sur des pilules pour maigrir aux effets secondaires mortels. En cause, le Garcinia cambogia, une plante tropicale que l'on trouve dans certains compléments alimentaires. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, ces produits en vente libre indiqués donc pour la perte de poids ont causé la mort d'au moins une personne en Italie, mais aussi, Mathilde, plusieurs hospitalisations en France.
Oui, pour des hépatites aiguës, des myocardites, des troubles cardiaques et psychiatriques. 38 cas ont été recensés entre 2009 et 2024, indique Perrine Nadeau de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition.
Il y a quand même 3 cas cardiaques qui sont assez importants, notamment le cas d'une femme de 32 ans qui a eu une myocardite et qui a dû être transplantée. Et là, je vous parle d'une personne qui n'avait pas d'antécédents médicaux.
La Garcinia cambogia, qui contient en fait un dérivé de l'acide citrique, est interdite dans les médicaments depuis 2012, mais pas dans les compléments alimentaires, parce que le circuit n'est pas le même, explique Philippe Bessé sur France Info. C'est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques.
Autant le circuit du médicament avec l'Agence de sécurité du médicament est très clair, très ferme et nous donne des indications précises, autant c'est moins clair, moins bien fait, je trouve, avec ces compléments alimentaires.
Et le problème, c'est qu'on retrouve ces produits, ces coupe-faim en vente libre dans les pharmacies et sur Internet. Environ 340 références sont concernées sur le marché français, les plus connues étant le Slim Metabol et le Lipoxycut. Et donc ce matin, Philippe Bessé demande à ce qu'ils soient immédiatement retirés de la vente.
La croix verte, ce doit être un espace de sécurité. On doit aux patients, on doit à nos concitoyens la garantie de la pharmacie. Moi, je n'aime pas que le doute puisse s'installer.
L'Agence européenne de sécurité des aliments est en train de mener une étude sur les risques et l'ANSES demande à ce que ces produits soient interdits en France dans l'attente d'une harmonisation à l'échelle européenne.
Merci Mathilde Cariou.
Nicolas Sarkozy sera-t-il prochainement exclu de l'ordre de la Légion d'honneur ?
Le règlement, en tout cas, est a priori, on ne peut plus clair. Toute personne condamnée à au moins un an de prison ferme doit se voir retirer sa distinction. Or, en décembre dernier, l'ex-chef d'État a été définitivement condamné par la justice dans l'affaire dite des écoutes à 3 ans de prison avec sursis, dont un enferme. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Selon toute vraisemblance, Nicolas Sarkozy devrait donc se voir retirer sa distinction dans les prochaines semaines ou prochains mois.
Oui, c'est même une certitude pour le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, le général François Lecointre, qui donnait hier une conférence de presse. Nicolas Sarkozy, dit-il, n'y coupera pas, il sera prochainement exclu.
Moi, je suis citoyen français, je peux pas imaginer que la loi ne s'applique pas. Donc, logiquement, la loi s'appliquera.
Car la loi écrite dans les statuts qui régissent l'ordre depuis sa création en 1802 par Napoléon ne prévoit pas d'exception. Une personne condamnée au minimum à un an de prison ferme est exclue de droit sans recours possible. Le règlement prévoit une échelle de sanctions en fonction du manquement ou de l'infraction commise par une personne. La sanction la plus faible est un blâme, une sorte d'avertissement. Quand c'est plus grave, c'est une suspension. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans au maximum. Et puis la dernière sanction, c'est la plus lourde, elle est définitive, l'exclusion. Chaque année, une quinzaine de procédures disciplinaires sont engagées et la personne visée peut se défendre. Elle vient s'expliquer devant le Conseil de l'Ordre qui, à la suite de cette audition, propose une sanction. Cette sanction peut être confirmée ou atténuée par le grand maître de l'Ordre de la Légion d'honneur, à savoir le président de la République. Mais quand il y a une condamnation judiciaire à 1 an de prison ferme, le président n'a pas son mot à dire. L'exclusion est automatique. C'est donc ce qui doit arriver à Nicolas Sarkozy. Des exclusions, il y en a de temps en temps. L'an dernier, en 2024, c'est arrivé 2 fois. En revanche, pour un ancien chef d'État, ça c'est beaucoup plus rare, nous dit le grand chancelier François Lecointre.
Historiquement, ça n'est arrivé qu'une fois. C'était pour le maréchal Pétain.
Au-delà du symbole, ce sera pour Nicolas Sarkozy une sorte de retour à l'envoyeur, une forme de double peine pour quelqu'un qui, par le passé, ne s'est pas privé de vanter les mérites de ce qu'on appelle la double peine pour les étrangers condamnés par la justice.
Merci Stéphane Robert. À l'issue du Conseil des ministres ce matin, l'ancien ministre macroniste Clément Beaune a été nommé haut-commissaire au plan en remplacement de François Bayrou et puis l'ex-ministre Modem Sarah El Haïry a été nommée pour sa part haut-commissaire à l'enfance. Enfin, le groupe informatique Atos, à peine sorti d'une tumultueuse restructuration financière, publié ce matin ses résultats annuels pour 2024. Un chiffre d'affaires en recul de plus de 10% par rapport à l'année précédente. La prochaine date attendue est fixée au 14 mai prochain, lorsque le nouveau PDG Philippe Salle présentera son plan stratégique et de transformation pour les 4 années à venir. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Ensoleillé sur la majeure partie du territoire, même si le ciel restera parfois voilé sur les Pyrénées et le littoral du Roussillon. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.